troisième conférence de Carême 2025 donnée au couvent des Dominicains de Toulouse. Aujourd'hui avec le frère Hugues-François Rovarino, le Puy de Jacob, une source de vie. Bonne écoute et bonne conférence.
Donc le sujet qui nous retient ce soir est ainsi formulé, le Puy de Jacob, une source vive. Donc nous allons ensemble à la fois redécouvrir ce lieu familier à beaucoup et mesurer sa fécondité. La fécondité d'une rencontre quand même improbable. Certes, la Samaritaine fait partie des pages les plus connues de l'Évangile, mais au départ, il ne devait pas en être complètement ainsi, Jésus aurait pu ne pas passer par la Samarie. Donc c'est vrai que cette année, nous avons souhaité parler à partir de différents lieux. Donc c'est vrai que durant ces conférences de Carême, nous avons déjà commencé à visiter des lieux, car tous les lieux sont liés à des mystères de la foi. Si Jésus nous y convie, s'il nous y rencontre comme la Samaritaine, c'est pour nous transformer. Et depuis la création de l'homme, il en est ainsi. Il nous appelle pour que l'image que nous avons de lui puisse grandir, pour que nous puissions parvenir à lui ressembler. Ainsi que le rappelle, le formule même, la première lettre de Jean au chapitre 3, « Dès maintenant nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lors de cette manifestation nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. » Donc tout ce parcours d'alliance et donc les différents lieux auxquels nous sommes conviés en ces soirs de Carême, tout ce parcours, pour édifiant qu'il soit, est désormais lié à notre rédemption, c'est le Seigneur qui nous y convie. Mais ce parcours se nourrit d'une certaine terre. Il s'y développe, il a besoin de concret, donc on constate que la terre biblique est comme un cinquième évangile. Vous en savez la formule, elle est classique depuis le pape Paul VI jusqu'au pape François. Elle décrit ainsi la Terre Sainte, le cinquième évangile. Et il en est d'ailleurs ainsi depuis que le Seigneur a planté sa tente parmi nous et qu'il nous appelle à découvrir une culture particulière, car l'élection, l'incarnation imposent cette façon de faire et de voir. Les mœurs de Dieu passent sur notre terre. Ainsi a-t-il demeuré parmi nous, il y a là une signification particulière. Ce n'est pas nouveau, déjà, dans les années 50, le père Roguet, donc un de nos aïeux, formulait ainsi « Le christianisme est une religion universelle, absolument vraie, ce n'en est pas moins » une religion historique fondée dans des circonstances de temps, de pays, de mœurs, qui lui donnent des modalités spéciales. Et c'est ainsi qu'on ne peut comprendre l'Écriture sainte et même l'Évangile, pourtant chargé d'un message universel, sans un minimum de connaissances sur le message juif, les genres littéraires juifs, la géographie palestinienne, etc. Donc cette rencontre du Seigneur, elle se fait sur une terre particulière, mais afin de nous construire. Comme l'a formulé saint Jean, « Si lors du jugement nous deviendrons semblables au Seigneur, dès maintenant sa rencontre nous construit au sens propre, nous édifie et nous améliore. » Enfin, du moins, on peut l'espérer. Donc, rencontre, oui, et croissance également. Un exégète qui fut dans cette maison, que vous connaissez sans doute pour certains d'entre vous, le frère Luc de Villers, écrivait « Qu'en est-il donc du quatrième évangile ? Ce qui frappe chez lui, ce sont les grands discours de Jésus, au ton très solennel. Il y a bien quelques récits, et quels récits ! Mais justement, ils sont trop peu nombreux pour nous permettre de reconstituer la trame historique du ministère de Jésus. L'évangéliste en est d'ailleurs parfaitement conscient, cela est voulu. Jésus, dit-il, a fait sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Ceux-là ont été mis par écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » C'est donc au chapitre 20, et puis un peu après, au chapitre 21, le frère ajoute un de ses disciples, qui complétera l'œuvre en y ajoutant un chapitre, n'hésitera pas à dire que le monde lui-même ne suffirait pas à contenir les livres qu'on écrirait, donc sur les choses accomplies par Jésus. Il s'agit de rencontres, il s'agit de croissance, et ces mots ont une densité tout à fait particulière dans notre rencontre de ce soir, celle qui nous retient, la rencontre de Jésus et d'une femme de Samarie autour du puits de Jacob. Alors, faut-il relire cet épisode ? Comme vous avez le texte et que vous le connaissez pour la plupart, on ne va pas relire tout l'épisode, mais on va particulièrement remarquer les différents moments de cet évangile. L'organisation du texte, au fond. Donc le schéma, c'est d'abord celui d'une rencontre, les deux premiers versets, puis le dialogue entre Jésus et la Samaritaine, qui est l'élément important du verset 7 au verset 26. Mais il y a aussi le dialogue avec les disciples, qui comprend aussi une certaine durée, donc les versets 27 à 38. Et puis le dénouement. Le dénouement grâce à l'intervention de la Samaritaine. Et ce sont les versets 39 à 42. Donc des périodes diverses et qui ont toute leur importance. On peut aussi, bien sûr, si on regarde la partie concernant la rencontre même, le dialogue entre Jésus et la Samaritaine, distinguer deux moments dans ce dialogue. L'un est plutôt lié au don de Dieu et à l'eau, les versets 7 à 15, et l'autre, c'est le lieu où adorer, versets 20 à 24. Donc de tout cela, il apparaît bien que la croissance spirituelle est l'enjeu, bien sûr, de ce texte, et elle est manifeste. Ainsi, la Samaritaine devient missionnaire. Ainsi, le puits devient une source. Ainsi, l'eau à puiser devient vie éternelle. Ainsi même, les fameux Samaritains, peuple pourtant à l'époque tenu pour hérétique et schismatique, il est même mélangé entre les gens du pays et ceux qui furent intégrés ou déménagés, déplacés pour venir occuper cette terre. Eh bien, ces Samaritains deviennent aussi missionnaires. Ils sont émerveillés par la révélation. Et ce peuple même, chez saint Luc, deviendra une référence de charité. Tout le monde connaît l'épisode de la parabole du bon Samaritain. On peut rappeler aussi que les Samaritains furent l'objet d'un autre passage de Jésus sur leur terre, et qu'ils expriment alors de la reconnaissance. Luc au chapitre 17. Donc non seulement il y a de la charité, qui est au moins dans la parabole de Jésus, mais il y a de l'action de grâce, de la gratitude, et en plus envers un juif. Or, ce n'était pas toujours le cas, les relations évidemment étaient plus fermes et plus difficiles que celles-là, mais cependant, Jésus veut manifester un effort, une attention particulière, en tout cas, il les respecte et il vient annoncer là aussi qui il est et ce qu'il faut, et qui il faut adorer et comment. Il y a donc une révélation par Jésus de la vérité qui est donc là. Et puis ensuite, il y a une certaine école, au fond, une manière d'être qui va à la suite de ce moment de la rencontre avec la Samaritaine. Alors, comment approcher du puits de Jacob ? Par quel biais va-t-on le faire ? Eh bien, c'est l'un des lieux, bien sûr, où le Seigneur se rend proche. Donc aujourd'hui, ce soir, nous avons un lieu qui est le puits de Jacob, un lieu qui est proche d'une ville, Sichar, et qui appartient à une région, la Samarie. Nous avons des circonstances, la fatigue de Jésus, la soif, et nous avons même le moment, la sixième heure. Et grâce à tout cela, on accède au cœur de l'enjeu, à la vie même de ce moment qui est celui de la révélation du Seigneur, la révélation de ces personnes, en vérité, les Samaritains, la mission spontanée qui va découler de la rencontre même du Seigneur. Et puis, c'est l'expression joyeuse aussi de cette foi et de cette même rencontre qui est pétrie de références d'Ancien Testament. Et puis, nous constatons les conséquences de cet événement inattendu et providentiel dans cette rencontre. Vous savez que deux moments dans l'Évangile selon saint Jean, donc chapitre 4, au verset 28 d'abord, il est dit, la femme alors laissa là sa cruche, courut à la ville et dit aux gens, donc les Samaritains, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ? Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Et un peu plus loin, au verset 40-42, quand ils furent arrivés près de lui, les Samaritains le prièrent de demeurer chez eux. Il y demeura deux jours et ils furent bien plus nombreux à croire à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus sur tes dires que nous croyons, nous l'avons nous-mêmes entendu et nous savons que c'est vraiment lui, le sauveur du monde. » Donc perception à la suite de cette rencontre et de cette mission, perception de l'identité profonde du Seigneur. Il est lui, le sauveur du monde. Donc ce déplacement qui part d'une rencontre qui finit en écoute spirituelle et en découverte de la vérité même de l'hospitalité, puisque ces Samaritains donnent accueil à Jésus et la foi des anciens hérétiques et schismatiques qui soulignent donc ce rayonnement d'une disponibilité sincère à la Providence. Il y a donc en tout cela un lieu surprenant, un drôle de lieu, une source de vie et une vieille histoire. Donc vient ce puits de Jacob, en Samarie. C'est des lieux qui, depuis 2000 ans, sont liés à la vie de l'Église. La fécondité de ce lieu ne se dément pas, à ce point même que, évidemment, et on le rappellera sans tarder, c'est un évangile de catéchuménat. Un évangile d'un scrutin. C'est la nouvelle naissance à laquelle ces catéchumènes sont appelés et qu'ils découvrent grâce à cet évangile. Donc le catéchumène aura pleinement part à la grâce du Seigneur par le baptême, cette eau vive. Donc le puits de Jacob où s'assoit un Jésus fatigué, assoiffé, à la sixième heure du jour, va devenir une fontaine d'eau vive, une source baptismale, d'où chacun repart enthousiaste. Et enthousiaste au sens plein du mot, c'est-à-dire rempli de Dieu. Hein ? Et pourquoi ce lieu est-il si chargé d'histoire et de symboles à cette époque ? Il y a des réalités qui sont en arrière de ce lieu. D'abord Jacob, auquel il fait explicitement référence, qui est un patriarche, bien sûr. Et puis, il y a une référence discrète à Moïse, qui peut aussi être en arrière-fond de ce texte. On rementionnera cela. En plus, il y a bien sûr Joseph et la fille de Jacob, Dina, fille de Jacob qui a été victime de viol et qui est allée ensuite rester à Sichem. Donc, difficulté maritale, épreuve maritale, ce n'est pas sans nous rappeler aussi la situation de la Samaritaine. Et donc, c'est vrai qu'il s'agit aussi de voir dans cet épisode un message d'espérance, même au plus profond des épreuves. Quant à Sichem, la ville voisine est si importante dans l'Alliance divine, elle nous rappelle le pacte des tribus liées au Seigneur et qui vont adhérer au Seigneur. Il est proposé aux tribus qui se réunissent à Sichem de se prononcer pour le Seigneur. Nous sommes au livre de Josué, les tribus d'Israël, du peuple élu, sont arrivées vers la terre promise et donc vont faire un pacte à Sichem. Elles consentent à être adoptées, elles choisissent le Seigneur. C'est une terre d'unité. Ce n'est pas non plus anodin, parce que précisément, c'est les Samaritains désormais qui sont là, et on les tient pour schismatiques. Donc cette rencontre qui a lieu chez eux, elle est particulièrement riche d'enseignements. Et elle continue à rayonner certainement à cause de cela. L'unité née à Sichem au temps de l'installation à Canaan, promise par le Seigneur, déchirée depuis, c'est elle qui va peut-être reprendre forme, reprendre vie, quand le Sauveur, le roi d'Israël, le Seigneur Dieu, vient en terre de Samarie à la rencontre de cette femme pour peut-être annoncer une autre adoration, adorer ensemble, en esprit et en vérité, pour adorer le Père. Donc, comme un message de réconciliation et de restauration. Donc, Jésus revient sur la Samarie par un chemin méconnu, en tout cas souvent évité, et pas forcément le plus évident des chemins. Si on peut être touché par la pédagogie de l'entretien, elle a toujours été exemplaire, elle est toujours exemplaire du type de relation que le Seigneur va tisser avec nous en partant de discussions générales pour approfondir la vérité qu'il y a derrière les mots. Celle-ci est précédée par un océan donc de trésors enfouis, mais qui veulent bien dire quelque chose pour cette population à l'époque qui habite sur cette terre-là. Et en tout cas, ce trésor, il est dans la mémoire de Dieu, et ce n'est évidemment pas par hasard que Jésus va descendre en Samarie. Et c'est pour cela que la Providence se décide à passer par la Samarie, pour venir en Galilée ensuite, le troisième jour. Il lui fallait traverser la Samarie. Il lui fallait traverser. Fallait-il vraiment ? Ça dépend. Si on regarde les choses de manière théologique, en effet, il le fallait. Mais matériellement, ce n'était pas si évident. La nécessité de ce passage n'est pas du tout évidente. Il s'agit d'un territoire montagneux, peu commode à franchir, et surtout la population est considérée par les juifs comme ennemie au plan religieux. Donc cette inimitié religieuse ancestrale, elle est bien ancrée. Les Samaritains sont des schismatiques, nous rappelle le frère Luc que je mentionnais tout à l'heure, et qui affirment rester fidèles au patriarche. Ils refusent la royauté davidique, ainsi que le culte du temple de Jérusalem. Ils célèbrent leur propre culte sur le mont Garizim, comme le rappelle la discussion. « Mon âme déteste le peuple stupide qui demeure à Sichem », formule le Siracide au chapitre 50. « Sichem sera appelé ville des insensés », dit le testament de Lévi. Donc, c'est de tradition. Jésus est accusé même d'être un samaritain et d'avoir un démon dans l'évangile selon saint Jean au chapitre 8. Donc, politesse pour politesse, les samaritains n'aiment guère non plus les Galiléens qui se rendent en pèlerinage à Jérusalem. Bref, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains, rappelle l'Évangile selon saint Jean. Ce que l'on peut traduire aussi ainsi, les Juifs ne se servent pas des mêmes ustensiles que les Samaritains. C'est d'autant plus impressionnant que précisément, il s'agira bien de cela pour aller puiser l'eau. Donc ce clin d'œil est assez intéressant, renforçant encore l'intérêt pour cette situation, et cela s'ajoute à ce passage qui nous fait penser à la Pâque, à l'eau vive qui viendra du Sauveur. Les symboles, donc, manifestent leur force. Et il n'y a pas de raison de penser qu'il s'agit seulement là d'un événement peut-être symbolique. Au contraire, Jésus, on le sait ailleurs, sait s'affranchir des convenances quand il y a, si je puis dire, urgence de la part de Dieu pour dire quelque chose. Donc, comme le formulera saint Augustin, celui qui demandait à boire avait soif de la foi de cette femme. Donc, il avance en terrain ennemi, il avance comme un réconciliateur. Tous les efforts de la rencontre sont derrière cette recherche d'unité. Et à chaque fois, il en est ainsi lorsqu'un Samaritain est en cause. Alors revenons aux aspects multiples de Jacob de Sichem. Qui dit Jacob fait évidemment bibliquement mémoire de multiples versets depuis le livre de la Genèse, qui à l'époque de Jésus et dans sa tradition juive est commun aux Samaritains comme aux Juifs. Les Samaritains, quoique hérétiques, c'est-à-dire qu'ils ne retiennent qu'une part de la Bible des Juifs, schismatiques, ils ont un autre temple à Garizim plutôt qu'à Jérusalem, ils sont de sang et de religion mêlés après la déportation à Babylone et le déplacement de la population pour occuper leurs terres, avant la réforme d'Esdras, retiennent donc le Pentateuque comme un de leurs livres, un d'un ensemble de 5 livres. Et c'est pourquoi dans ce débat, il y a la personnalité tout à fait intéressante de Jacob, parce que nous sommes en terrain partagé. C'est une figure qui compte des deux côtés. Référence commune. Et on en trouvera encore d'autres, puisque dans le Pentateuque, on aura aussi la personnalité de Moïse, on aura la personnalité de Joseph, et on aura aussi le Deutéronome. D'un autre côté, symbole Sichem, mais Sichem et donc Sichar, c'est le lieu non seulement du pacte des tribus dans Josué au chapitre 24, mais c'est aussi, malheureusement, le symbole d'une rupture d'alliance. Israël et Juda y consomment un schisme. On le voit dans le premier livre des Rois. Et cela parlera à tout le monde, et on le voit dans le livre d'Esdras, parce que ce schisme rendait même impossible les noces légitimes entre un judéen et une samaritaine. Donc le schisme était consommé, il était hors de question d'avoir des relations, d'avoir des rapports, et tout le monde s'évitait. Donc c'est vrai que l'inouï de Jésus arrivant à rencontrer cette femme de Samarie, et en plus en territoire de Samarie, sur ce lieu symbolique qu'est Sichem, dans un lieu qui fut capitale de l'unité des 12 tribus, tout cela manifeste quelque chose d'absolument marquant, remarquable et rayonnant. Ce roi selon le cœur de Dieu qui avance à la rencontre d'un peuple pour reconstruire l'unité et qui prophétise la réconciliation. Donc il y a là une source de vie, manifestement, plus importante encore que l'image de l'eau. C'est cette référence qui manifeste aussi tout l'enjeu de ce moment au bord du puits. D'autant plus que dans le livre du Deutéronome, donc, on parle non pas d'un puits, mais d'une source de Jacob. Donc là aussi, il y a eu un glissement d'expression. On n'est pas dans la même population, mais en tout cas, on parle de source de Jacob. Donc la source, c'est le lieu, non seulement pour symbolique et pour exprimer la restauration ou la réconciliation, mais c'est aussi le lieu où viennent les troupeaux, c'est le lieu où se concluent des alliances, c'est le lieu où se concluent aussi des noces, des rencontres pour arranger des mariages. Donc c'est nuptial, une source. Et on sait que, par exemple, Rebecca et Isaac, Jacob et Rachel, se sont rencontrés, ça s'est noué autour d'une source. La théologie de l'alliance s'est aussi concrétisée dans ces noces. Et lorsque Moïse, au début du livre de l'Exode, va aller vers Madian, il y va aussi, il va rencontrer les filles de Jéthro. Les rencontres ont lieu autour de sources. Les sources, c'est le lieu d'une fidélité de Dieu aussi dans son alliance. Et cependant, donc, il y a aussi, non seulement l'alliance, mais il y a l'image de la fatigue et d'une épreuve, il va falloir découvrir ce que Dieu veut. Alors la fatigue, eh bien, elle comprend en effet un des moments marquants, et c'est précisément cette fatigue que le Seigneur va manifester. Fatigue de l'un et recherche de l'eau. Et il y a là des équivoques, et des situations, une situation à la fois banale mais riche de sens qui va se développer avec des découvertes progressives d'un sens spirituel. Donc une fatigue divine. Le moment du puits, c'est une certaine épreuve. Il y aura du mal à être entendu, à être compris, mais cependant, d'abord, il y a la fatigue de Jésus. D'une certaine manière, vous avez peut-être fait l'expérience, c'est lorsqu'on est souvent, parfois fatigué, qu'on a du mal à pouvoir lutter contre Dieu. D'une certaine manière, on va prendre les psaumes, par exemple, vous arrivez à l'office, vous êtes fatigué, vous avez des choses. Et là, on ne résiste pas, on prend les choses comme elles viennent. Eh bien, d'une certaine manière, c'est un peu à cela que nous amène le Christ. Cette femme va puiser de l'eau. Il est midi, c'est quand même pas la meilleure heure. Jésus est fatigué, évidemment, c'est midi, sixième heure. C'est pas le moment le plus facile pour circuler en plein soleil. Donc, c'est plutôt une situation où on est assez naturellement simple, plus simplifié, parce qu'on n'a pas, on va pas avoir de défense. Et le salut, pourtant, le salut que vient proposer Jésus, mettra un certain temps pour être accueilli. Mais le don de Dieu va se manifester. Et d'ailleurs, l'expression de don de Dieu est tout à fait intéressante. C'est la seule fois que l'Évangile selon saint Jean formule cette expression. Ce don de Dieu, il pourrait aussi être le don de la loi. Facilement, on dira « c'est l'Esprit Saint ». En réalité, il est bien possible que ce soit le don de la loi. Parce que, nous le verrons, il y a un lien entre la situation de Jésus venant auprès d'un puits pour manifester le don du Seigneur avec la venue de Moïse telle qu'elle est reçue par les textes à l'époque de Jésus. Moïse va aussi s'asseoir sur la margelle d'un puits et demander le don de la loi. Et on retrouve des parallèles qui, à l'époque de Jésus, sont formulés dans les deux traditions, celle de saint Jean et celle de Flavius Joseph. Donc Moïse est aussi en arrière-fond de cet épisode. L'ampleur de la signification nous conduit donc en profondeur. Jacob en est le prophète. Jacob, comme la femme de Samarie, vivront Dieu, pour parler simplement, comme dirait Zundel. Et Jacob, c'est celui qui a dit « Vraiment, le Seigneur était là et je ne le savais pas. » Un parallèle peut être fait précisément avec la Samaritaine, car elle découvrira que le Seigneur était là et elle ne l'avait pas reconnu. Elle ne le savait pas. Et nous sommes précisément appelés à en faire autant. Et comme eux, nous allons en faire autant pour nos contemporains, pour d'autres, les Samaritains contemporains. Ce n'est pas comme la Samaritaine va aller en effet comme porter la bonne parole aux Samaritains. Et nous pouvons en faire autant quand nous sommes touchés par cette même eau vive, le don de Dieu. Donc quand Jésus descend vers Sichem, il emprunte aussi les pas de Joseph, parti chercher ses frères, lui qui prophétisera plus tard la passion rédemptrice. Tous ces symboles parlent. C'est le lieu de l'enjeu. Les frères de Joseph vont être retrouvés. La fatigue aussi manifeste et cette attitude de Joseph qui part chercher ses frères. Bref, la fatigue a sa place dans cet épisode, et là aussi, derrière cette attitude du Christ, il y a de nombreuses références. Enfin, vous connaissez peut-être ou sans doute ce texte de saint Augustin sur la fatigue de Jésus, un texte qui est assez remarquable et très profond et que vous avez sur vos feuilles. Jésus donc, fatigué de la route, s'était assis. Ici commencent les mystères. Ce n'est pas pour rien que Jésus est fatigué, pour rien que la force de Dieu est fatiguée, pour rien qu'est fatigué celui qui repose nos fatigues, lui dont l'absence nous fatigue et la présence nous rend fort. Jésus, cependant, fatigué par la route, s'assied au bord du puits à la sixième heure. Tous ces détails évoque quelque chose, etc. C'est pour toi que Jésus est fatigué de la route. Nous trouvons Jésus le fort et nous trouvons Jésus le faible. Jésus fort et faible. Fort parce qu'au commencement était le Verbe et le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu et il était cela au commencement auprès de Dieu. Veux-tu voir la force de Dieu ? Tout a été fait par lui, etc. Veux-tu connaître sa faiblesse ? Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. La force du Christ t'a créé, la faiblesse du Christ t'a recréé. La force du Christ t'a fait être, ce que tu n'étais pas. La faiblesse du Christ a fait que ce que tu étais ne périsse pas. Il nous a créés par sa force, il nous a cherchés dans sa faiblesse. C'est par sa faiblesse qu'il nourrit ceux qui sont faibles, comme la poule nourrit ses petits. Et cela nous renvoie aussi à cet évangile. Telle est l'image de la faiblesse de Jésus, fatigué de la route. Sa route, c'est la chair qu'il a prise pour nous. La fatigue du chemin n'est rien d'autre que la faiblesse de la chair. Cette route est la chair qu'il a prise pour nous. C'est dans sa faiblesse que tu es fort. Donc cette faiblesse, elle importe beaucoup, et ce n'est pas pour rien, en effet, qu'elle est exprimée au commencement ou dans les premiers temps de cet évangile. Faiblesse marquante qui renvoie à une autre faiblesse, un commentaire parallèle, qui, comme je vous le disais, de Flavius Joseph concernant Moïse. Et puis il y a donc cette heure, la sixième heure, un détail qui compte lui aussi, car 6 précisément n'est pas 7, vous pouvez vous en douter, mais ça veut dire que la Samaritaine, et ce moment-là particulièrement, n'est pas le symbole de l'accomplissement, c'est celui de l'attente. On va connaître plus tard un septième. Et il y a là quelque chose d'inachevé. Et là encore, c'est ce que l'on voit au commencement de cette discussion, nous sommes à la sixième heure. Quelque chose d'inachevé aussi, à savoir que la sixième heure, peut-être que la femme, en venant puiser de l'eau à cette heure-là, espère bien de rencontrer personne. Elle ne devrait pas rencontrer Jésus. Jésus sait ce qui va se passer. L'évangile selon saint Jean manifeste toujours cette maîtrise du Seigneur. Il sait où il va, comment, à quelle heure. Mais en attendant, la femme, elle espérait bien de rencontrer personne. Et c'est pour ça qu'elle vient à la sixième heure. Elle serait seule. Et puis, 6, ce n'est pas sans rappeler le sixième compagnon qu'elle a. Elle a déjà eu 5 maris, et celui qui est là, celui avec lequel elle est actuellement, n'est pas son mari, c'est le sixième. Alors bien sûr, il y aura des lectures allégoriques aussi, et on pourra dire précisément ce lieu a ses 5 divinités. La sixième divinité, ou le sixième Dieu, c'est le Dieu adoré à Garizim, et Jésus va lui révéler le septième, plénitude, et c'est celui que l'on va adorer en esprit, en vérité, mais c'est celui qui est adoré comme le Père qui est adoré à Jérusalem. Donc c'est vrai que cette richesse du mot, du simple symbole du 6 est assez intéressante, indicatrice. Enfin donc, une rencontre qui nous éveille à ce qu'est la vraie soif. Cette soif, c'est celle de l'eau naturelle, évidemment. Une expérience élémentaire que tout le monde fait. Et Jésus part sur cette lancée-là. Il vient chercher de l'eau, j'allais dire officiellement. Et puis, il y a la soif du désir d'éternité et de bonheur, une soif plus psychologique et spirituelle, soif de vivre. Enfin, celle qui est inscrite dans l'Alliance divine, où le Seigneur nous recherche depuis les premières heures de l'humanité, si tu savais le don de Dieu. Enfin, c'est le quatrième niveau de l'eau, si je puis dire, celle que Dieu portera dans sa chair, une eau rédemptrice, c'est celle où le Christ crie « J'ai soif ». Il avait soif de la soif de cette femme, de la foi de cette femme. Il a soif et lui donnera à boire de son côté ouvert. Et c'est le cœur de Dieu. C'est ce même cœur qui fait que Jésus descend en Samarie pour porter la réconciliation sur une terre divisée et séparée. Bref, ce texte a une valeur particulière liée donc à cette rencontre, à cette patiente discussion qui amène aussi à la connaissance de soi. La connaissance de soi la connaissance de Dieu, la manière d'adorer Dieu, de se placer par rapport à lui, de se décentrer et de se convertir. Mais d'abord, il y a eu cette réalité, ce fondement concret, des références historiques, avant que s'épanouisse une catéchèse qui est celle de la reconnaissance. On va reconnaître celui que l'on va adorer. Le cardinal Ratzinger commentait ainsi ce texte dans une conférence sur la catéchèse précisément, et en disant que Jésus et la Samaritaine, en utilisant les mêmes mots, visent deux niveaux tout à fait différents, et ainsi séparés par la multiplicité des sens du langage humain, ils se parlent sans se rencontrer, au commencement en tout cas. Et puis il y a un changement. Lorsque la femme, à partir même de la question de la soif de vivre, elle se met en jeu dans la totalité de sa personne. Elle commence à dire « je sais, vous ». Elle intervient elle-même. Et c'est, donc on a passé un degré d'intervention, de connaissance et d'implication. Elle ne se pose plus une question sur quelque chose, mais quelque chose qui la concerne directement elle-même. Donc c'est une réflexion importante, marquante, pour l'enseignement de la foi. On découvre à travers ce texte un style propre à la transmission, un style catéchétique précisément. Et l'homme doit se reconnaître lui-même, reconnaître sa réalité profonde pour pouvoir reconnaître Dieu. Sainte Catherine de Sienne parlerait de la cellule de la connaissance de soi, mais en réalité il s'agit bien de cela, c'est la connaissance d'elle-même, de voir ce qu'elle peut faire, qui elle est, et qui l'invite aussi à prendre conscience de qui est Dieu, et elle se tourne pour adorer en esprit et en vérité. Conduire à cette foi, à cette soif, pardon, telle est l'orientation même de toute catéchèse. Et c'est ce qu'on voit en œuvre ici, dans cette fécondité étonnante du texte de la Samaritaine. On ne peut pas faire autrement, c'est la catéchèse de base, si je puis dire, que de prendre son départ dans la partie sensible de l'homme qui ne sait ni qu'il y a un Esprit Saint, ni même qu'il lui serait possible d'en avoir soif, ni même de savoir qu'il y a forcément une loi de Dieu. Peu importe, en tout cas, il a soif, et c'est à partir de cela, c'est quelque chose que l'on peut accéder ou inviter à accéder à l'être. Donc derrière cela, il y a une dynamique de conversion, un retournement de l'homme, et c'est cela qui nous intéresse particulièrement dans une catéchèse. Or, ce texte en est une. C'est une invitation à participer à la vie de Dieu, à la vie de la grâce, et à découvrir le goût de Dieu même. Donc c'est pour cela que nous parlons de source, que l'on parle de source de vie. On va sur le registre de la dépossession, de l'abandon, de la fécondité mystérieuse. Et c'est pourquoi on est invité à avancer en eau profonde, si l'on peut filer la métaphore de l'eau. On avance en eau profonde. Et d'une certaine manière, je trouve que dans ce texte, il y a même comme un parallèle, puisque Jacob est évoqué, il y a peut-être un parallèle à voir entre Jacob et la Samaritaine. Car Jacob, je le mentionnais tout à l'heure, s'étonnera, après avoir lutté contre l'ange, sur le bord du Yabok, il dit « Vraiment, le Seigneur était là et je ne le savais pas. » Et d'une certaine manière, la Samaritaine est exactement dans la même situation. Elle va le découvrir en se souvenant de ce qui lui est, de la discussion qu'elle a, et à ce point qu'elle ira annoncer cette présence du Seigneur. Mais dans ce parallèle, que je vois, je mettrai aussi que la Samaritaine perd un peu son rôle premier. un peu comme Jacob qui a été blessé à la hanche. Ce n'est plus le même Jacob une fois qu'il a lutté avec l'ange. C'est-à-dire, une fois que la Samaritaine a été comme convaincue de la présence du Seigneur, elle-même en est marquée à jamais. Et d'ailleurs, elle en est marquée à ce point que les Samaritains eux-mêmes, grâce à elle, peuvent accueillir Jésus, mais désormais ne feront plus référence à elle parce qu'ils ont accueilli Jésus. Elle est comme, entre guillemets, privée de son... De sa place de choix, en tout cas. Ça tombe bien, elle n'est pas là pour une place de choix, certainement. Elle est heureuse d'avoir découvert comment il faut adorer en esprit, en vérité. Mais en attendant, c'est vrai que cette première place, au fond, elle, désormais, elle en est comme blessée. C'est d'autres qui peuvent aussi adorer, c'est d'autres qui croient, parce qu'ils ont accueilli le Seigneur. Ils ne croient plus sur les dires de la Samaritaine, ils vont croire directement parce qu'ils ont accueilli le Seigneur. C'est comme un retrait, si je puis dire. C'est comme une sorte de blessure spirituelle ou une privation, un déplacement. Mais c'était un peu comme ce qui est arrivé à Jacob. Au fond, Jacob souhaite la victoire de Dieu comme Dieu souhaite la victoire de Jacob. Dieu combat pour être vaincu parce qu'il a déjà tout donné. Et bien, d'une certaine manière, la Samaritaine aussi, elle souhaite que le Seigneur soit connu et elle va être ensuite en retrait parce que finalement, le Seigneur peut se révéler grâce à elle, mais directement auprès des Samaritains. Donc il y a là un certain parallèle, je trouve, de toute façon, sachant que la prière n'est pas autre chose que le désir de la présence de Dieu. Et là est cette réalisation. Dieu est là. Ce lieu est redoutable, dirait Jacob dans le livre de la Genèse. Ce n'est rien de moins qu'une maison de Dieu et la porte du ciel. La révélation est totale et il en va de même pour notre Samaritaine. C'est pourquoi, pour conclure, on pourrait dire, pour paraphraser l'évangile selon saint Jean, on peut dire que, vous savez, ce que nous avons pu dire de plus profond concernant le puits de Jacob et la source qu'il devient, de l'eau de puits à la source d'eau vive. Vous n'êtes pas venu pour apprendre davantage, mais pour écouter, pour méditer, pour revenir sur un texte familier. Parce que ce texte est fondamental pour la rencontre du Seigneur, pour la suite à donner à cette rencontre. Il y a donc deux réalités dont je n'ai pas encore parlé, mais ces deux réalités sont... Mon surprise, l'une, c'est que on parle de femme de Samarie, elle n'a pas de nom. Et puis, il y a une restauration liée à l'eau vive. C'est quand même assez intéressant, dans beaucoup de passages d'évangile, il y a à la fois des textes où l'on nomme les personnes, quitte à leur donner un autre nom, et puis il y a des textes où les personnes n'ont pas de nom. L'aveugle-né, la femme de Samarie, le disciple que Jésus aimait. Bref, certains n'ont pas de nom. Et pourtant, ils ont une existence assez évidente et beaucoup d'importance. Comme cette femme de Samarie. C'est un nom générique, un peu vague, mais c'est assez pour dire que on peut adhérer à ce qui lui arrive. On peut chacun se sentir rencontré par le Seigneur. Et d'autant plus que la dénomination qu'elle a suffit, en fait, à l'identifier. On sait qu'elle est de Samarie et on sait tout ce que évoque cette réalité-là. Et derrière cette réalité-là, n'a pas besoin donc d'être plus nommé que cela, on voit que cette restauration que souhaite le Seigneur va se déployer avec l'eau vive, dans l'œuvre du salut, avec la croix du Sauveur, avec le cœur de Dieu. L'évangéliste avance déjà l'œuvre à cette heure-là. L'heure n'est pas encore venue. La sixième heure, on la retrouve mentionnée aussi dans la Passion du Seigneur. Elle suit l'anticipation déjà venue à Cana, là aussi lors de noces, où venait une autre personne, là encore dénommée femme. On voit bien que c'en est une autre, certes, mais enfin elle est appelée femme. Et il est mention aussi de l'heure et de l'eau. Nous savons que l'heure au chiffre imparfait, donc cette sixième heure, l'eau, la dénomination femme, seront aussi au calvaire pour la réconciliation, là aussi, comme un mari. Et donc cet épisode de Jésus qui descend en Samarie peut être vu comme une prophétie, d'une certaine manière, grandeur nature, en personne, si l'on peut ainsi dire. Cette prophétie, elle est réalisée dans la personne de la Samaritaine. Elle l'est dans une relation qui apparaît restaurée entre la femme aux cinq maris et un compagnon et les Samaritains, qui tout à coup adoptent le message d'une femme infidèle et volage, qui précisément ne voulait pas être vue d'eux. Et finalement, ils vont l'écouter et en tenir compte. Et c'est grâce à eux, qu'ils hébergeront le Seigneur. Comme Jésus, donc, les Samaritains font d'elle une missionnaire. Et puis, cette réconciliation réalisée dans une personne, elle est prophétisée de manière plus large pour l'unification détruite depuis quelques siècles, depuis cinq siècles, et qui se trouve actée par la venue affirmée du Messie. « Je le suis, moi qui te parle. » Ou plus encore, « Je le suis » tout simplement comme « Je suis » dans le livre de l'Exode. Alors je terminerai en citant le livre des Éphésiens, la lettre aux Éphésiens plutôt, au chapitre 2, « Car c'est lui qui est notre paix, le Christ, lui qui des deux peuples n'en a fait qu'un, détruisant la barrière qui les séparait, supprimant en sa chair la haine, cette loi des préceptes avec ses ordonnances, pour créer en sa personne les deux en un seul homme nouveau, faire la paix et les réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul corps, par la croix.
En sa personne, il a tué la haine.
Alors il est venu proclamer la paix, paix pour vous qui étiez loin, et paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, nous avons en effet tous deux en un seul esprit, libre accès auprès du Père. »